Le journal qui vous est présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le récit de l'assaut qui a conduit à la libération des deux touristes français capturés au Bénin il y a 10 jours et localisés au Burkina Faso. Franck Cognard, commentaire du spécialiste de l'Afrique Thomas Hoffnung. Le naufrage au large de la Tunisie d'une embarcation avec près de 100 réfugiés à son bord. Des réfugiés qui ont pris la mer à hauteur de la ville libyenne de Zouara, correspondance de Maureen Mercier à Tunis. Le cargo saoudien a disparu de la rade du Havre sans son chargement, des armes françaises. Satisfaction, prudence et humilité de la part de l'une des deux ONG françaises opposées à ses exportations en pleine guerre au Yémen. Enfin, la restauration de Notre-Dame de Paris, débat fleuve en cours à l'Assemblée nationale et querelle sémantique, explication en fin de journal de Catherine Dutu. L'armée française a livré en fin d'après-midi quelques informations quant à la libération des deux touristes français portés disparus au Bénin le 1er mai dernier. Libération au nord du Burkina Faso, il s'agissait d'éviter le transfèrement des otages vers le Mali. Patrick Pic et Laurent Lassimoyas ont été libérés lors d'une opération menée par les commandos de marine. Hier soir, ordre a été donné d'intervenir. Deux sous-officiers du commando Hubert sont morts au combat. Les précisions de Franck Cognard.
Le 7 mai, grâce à des renseignements techniques américains, le lieu de détention des otages avait pu être précisé. Et puis il y a eu la crainte que ces otages ne soient transférés ou vendus à un groupe djihadiste malien redouté, la Katiba Massina. Donc hier après-midi, une opération de libération est planifiée. Elle est décidée pour la nuit qui suit. Les 20 commandos marines la nuit dernière réussissent à approcher sans se faire repérer du campement composé de 4 abris. La suite est racontée par le chef d'état-major des armées, le général Lecointre.
Au moment où les commandos vont être détectés, ils sont à une dizaine de mètres des abris. Ils entendent les ravisseurs terroristes armer leurs armes à l'intérieur des abris. Ils décident donc de monter à l'assaut des objectifs, mais ils montent à l'assaut sans ouvrir le feu pour être certains de ne pas faire de pertes chez les otages. C'est lors de cette pénétration dans deux de ces abris que les deux commandos marines ont été tués à très courte distance par deux des ravisseurs.
4 ravisseurs sont tués dans l'intervention, 2 s'enfuient, aucun des autres commandos n'est blessé. Les 4 otages sont en M4, quand les soldats français ne s'attendaient à ne trouver sur place que les 2 touristes enlevés au Bénin il y a 10 jours. Et il y avait donc avec eux 2 femmes, une sud-coréenne, une américaine.
Et le chef de l'État, Emmanuel Macron, présidera une cérémonie d'hommage aux 2 militaires de la force Barkhane aux Invalides mardi prochain. Bonsoir Thomas Hoffnung.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste sur le site The Conversation et spécialiste de l'Afrique. Thomas Hoffnung, peut-être dans un tout premier temps et rapidement, à quoi ressemblent ces terres où l'intervention des commandos marines a eu lieu?
Donc là, on est aux confins entre le Burkina Faso et le Mali. Ce sont des zones très arides et c'est ce qui a d'ailleurs peut-être causé la perte des ravisseurs, c'est qu'ils ont été repérés dans ce terrain à découvert, contrairement à la zone où les otages avaient été enlevés, c'est-à-dire une zone assez boisée dans le sud du pays.
Alors, une source ce soir burkinabé, citée par l'agence France Presse, selon cette source, les djihadistes n'y sont pas partout en permanence dans cette zone, mais on ne peut pas dire que cette zone soit contrôlée par l'État. Ceci explique peut-être cela.
Alors oui, il y a des zones entières en fait qui échappent au contrôle de l'État. Et là, c'est un constat qu'on peut faire aussi bien pour le Mali que pour le Burkina Faso. Et on l'a vu aussi donc dans le nord du Bénin où les deux Français ont été enlevés, les deux touristes français qui faisaient un safari dans un parc. Toutes ces frontières sont poreuses. On voit que les ravisseurs, les groupes djihadistes jouent des frontières, qui jouent un peu à saute-mouton avec ces frontières. Et puis, encore une fois, là, on voit par exemple qu'ils ont pu parcourir des centaines de kilomètres sans être arrêtés. Ils ont été repérés par des moyens de renseignement américains et français, mais ils ont pu donc circuler sans encombre jusqu'à la frontière avec le Mali.
Et traverser ainsi le pays, tout le pays, une bonne diagonale dans le Burkina Faso.
Oui, c'est ce qu'a dit le chef d'état-major des armées françaises, le général Lecointre. Il a dit que ça représentait à peu près la moitié du territoire français. Voilà, ils circulent très rapidement, ils ont fait une halte. Et c'est à ce moment-là que l'opération a été déclenchée, parce que c'était avant la traversée de la frontière avec le Mali, où là, sans doute, les otages français ont été remis à un groupe très structuré qu'on appelle la Katiba du Massina, et qui visiblement avait commandité cet enlèvement.
Alors là, la Katiba Massina, citée par le général Lecointre, c'est le principal ennemi de la France dans cette Afrique de l'Ouest ?
Oh, il y en a plusieurs, malheureusement. Il y a une myriade de groupes. D'abord, historiquement, si je puis dire, c'était Al-Qaïda au Maghreb islamique, hein, qui était un groupe constitué au départ de militants, d'activistes algériens qui sont descendus au Mali. Et puis ensuite, en quelque sorte, cette violence djihadiste, elle descend progressivement vers le sud. Maintenant, il y a le centre du Mali qui est touché. À son tour, le Burkina Faso, qui a longtemps apparu comme une sorte de pôle de stabilité. Et depuis la chute de l'ancien président Blaise Compaoré, qui était très lié à la France d'ailleurs en 2014, depuis sa chute, on a l'impression que le pays part un petit peu à volo au niveau sécuritaire. Et puis encore une fois, ça descend encore plus vers le sud, cette fois vers le Bénin, donc un pays côtier.
Existe-t-il, on connaît un peu la réponse, mais on aimerait avoir vos précisions, des articulations entre ces différents groupes djihadistes qui prennent l'allure d'une nébuleuse, comme vous venez de le souligner?
Oui, parce qu'il y a un groupe, il y a une personnalité qui fédère un petit peu tous ces groupes dans la zone, c'est Iyad Agrali, qui est un Touareg qui a mené des rébellions avant de devenir djihadiste dans les années 90 contre l'État central de Bamako au Mali. Et en fait, Iyad Agrali, qui apparaît un peu comme l'ennemi public numéro un pour les Français, eh bien, sous sa bannière, il a réuni différents groupes, dont la Katiba Massina, donc dans le centre du Mali, et puis d'autres groupes qui ont surgi au fur et à mesure des années, et qu'on retrouve aussi maintenant, on trouve d'autres groupes de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso, qui sont, alors les uns sont liés, plutôt affiliés à Al-Qaïda, d'autres à l'État islamique, mais tous poursuivent le même objectif finalement, c'est de déstabiliser ces pays, de rallier les populations à leur cause et surtout aussi de bouter les Français hors de ces territoires.
Quel est le principal ressort justement pour rallier des populations? Est-ce qu'il est ethnique ce ressort?
Non, il n'est pas ethnique, mais maintenant on voit que ces groupes djihadistes essayent d'instrumentaliser des vieux contentieux entre des différentes communautés, qui sont parfois des conflits tout simplement, j'allais dire, fonciers, entre des pasteurs et des agriculteurs. La sécheresse joue aussi un rôle, parce que on a plus de mal à accéder aux points d'eau. Donc il y a des conflits qui sont plus ou moins anciens, qui sont instrumentalisés par ces groupes djihadistes. Au départ, ce ne sont pas des conflits ethniques, hein, c'est vraiment des objectifs politiques qui sont poursuivis par ces groupes djihadistes et qui donc instrumentalisent une sorte de colère, de mécontentement grandissant des populations à l'égard d'États qui sont très défaillants. C'est le cas notamment au Mali.
Mais des populations qui ont de la peine à survivre parce que la pastoralité est abîmée, dégradée aussi par les conflits, et donc un engrenage.
Oui, absolument. C'est exactement ce qu'on voit dans le centre du Mali, entre les populations Peul, qui sont des populations traditionnellement nomades, et les agriculteurs Dogon, qui sont bien implantés dans la zone. Alors c'est des contentieux qui sont parfois très anciens, mais qui avant, si vous voulez, il y avait une sorte de médiation, il y avait des arbitrages qui étaient menés par des structures traditionnelles. Ces structures, elles ont un peu volé en éclat du fait de la violence qui a surgi avec l'arrivée des groupes djihadistes, et puis l'incapacité du gouvernement malien, en l'occurrence, à répondre à cette violence, à stabiliser la situation.
Bien, merci infiniment. Merci Thomas Hoffnung. Je rappelle que vous êtes journaliste sur le site The Conversation. Merci de vos éclairages. 3 mois, le peuple algérien ne désarme pas et depuis 3 mois défile dans les principales villes du pays. Détermination intacte ce vendredi avec pour cible le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaït Salah, ainsi que le Premier ministre, Noureddine Bédoui, entre autres slogans abondamment scandés. L'Algérie est notre république, pas une caserne. Au moins 3 personnes sont mortes noyées et des dizaines d'autres portées disparues dans les eaux internationales au large de la Tunisie, selon l'agence de l'ONU pour les migrations. Leur embarcation a quitté Zouara il y a peu. Le point avec notre correspondante Maureen Mercier à Tunis. Maureen Mercier qui revient justement de Libye.
L'embarcation est partie de Zouara, ville libyenne, non loin de la frontière tunisienne. 16 rescapés seulement, alors que selon leur témoignage, 60 à 70 personnes au moins se trouvaient à bord, sans doute même plus pour le Croissant Rouge tunisien. Selon ces informations, près de 70 migrants auraient même perdu la vie. 3 corps ont été retrouvés jusqu'ici. Les passagers tentaient de rejoindre illégalement l'Italie, déclaration du ministère de l'Intérieur tunisien. Aujourd'hui, la guerre entre le maréchal Haftar et le chef du gouvernement d'Union nationale de Sarraj à Tripoli, la capitale, provoque davantage de départs. D'une part, les forces armées sont concentrées sur le front de guerre, autant dire que les trafiquants ont les coudes franches sur les côtes. Ensuite, parce que des migrants qui travaillaient et comptaient rester en Libye fuient désormais le pays à cause du conflit. À l'aéroport de Tripoli, cette phrase d'une Nigérienne résonne. Elle bénéficie d'un retour dans son pays via l'Organisation internationale des migrations. Si je ne parvenais pas à rentrer chez moi par avion, j'aurais dû fuir la guerre par la mer. Pas le choix. Pour rappel, pratiquement plus aucun bateau humanitaire n'opère au large de la Libye. La plupart des naufrages s'y déroulent souvent dans le plus grand silence.
Un nouvel Alep doit être évité à tout prix à Idlib. Ce furent les termes de François Delattre, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, avant la réunion en urgence à huis clos pour discuter de la situation en Syrie. Eh bien, Moscou s'est opposé à une position commune au terme de ce huis clos. Relevons toutefois que 11 des 15 pays du Conseil ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'aggravation de la situation dans les provinces syriennes d'Idlib et de Hama. En France, la satisfaction de la section havraise de la Ligue des droits de l'homme qui a appris que le cargo saoudien qui devait recevoir une livraison d'armes françaises ne ferait pas escale dans le port normand. Les ONG françaises soupçonnent que ces armes ne soient utilisées au Yémen. Deux d'entre elles avaient d'ailleurs introduit un recours judiciaire pour empêcher ce chargement controversé. Parmi elles, Action chrétienne contre la torture. Scarlett Bain a sollicité l'un de ses responsables, Elias Geoffroy.
On voulait empêcher effectivement que ces équipements français, en l'occurrence des canons César, soient chargés sur le cargo pour l'Arabie Saoudite. On avait déjà des éléments concordants révélés par l'ONG Disclose qui nous indiquaient que ces mêmes canons étaient utilisés dans le nord du territoire yéménite à partir de la frontière saoudienne, depuis le territoire saoudien, et qui ont pu avoir fait des victimes parmi les civils, hein, puisque dans leur champ d'action se trouvent environ 430 000 civils, et donc la présomption est forte que ces canons César aient servi dans ces bombardements et donc aient causé des victimes civiles.
Le retrait du cargo saoudien, donc c'est une victoire?
C'est en effet une victoire, disons une petite victoire, puisqu'on a pu tout de même empêcher le chargement des armes depuis le port du Havre, bien que notre référé ait été rejeté. Néanmoins, nous restons vigilants car nous ne sommes pas à l'abri d'une autre manœuvre visant à faire charger ces armes par un autre moyen ou quelque part, sur un autre port. On reste vigilants concernant ce qui va se passer dans les jours à venir, notamment au port de Santander en Espagne où le cargo est censé arriver prochainement.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés va procéder à l'instruction des plaintes des organismes et personnalités qui l'ont saisie après les révélations du journal Le Monde et de France Télévisions sur le fichage présumé opéré pour le compte du géant américain Monsanto par l'agence de communication Fleischmann. Le parquet de Paris annonce ce soir l'ouverture d'une enquête judiciaire. Des centaines de responsables politiques, de scientifiques et journalistes sont répertoriés en fonction de leur position sur les pesticides, leur niveau de soutien à Monsanto, leurs loisirs, mais aussi leurs adresses et numéros de téléphone, y compris sur liste rouge. Les députés examinent depuis des heures le projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris, près d'un mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale. Le texte propose une souscription nationale, des avantages fiscaux pour les donateurs, un comité de contrôle pour le bon emploi des fonds, mais aussi d'éventuelles dérogations aux règles en vigueur pour les monuments historiques. Une loi d'exception, en somme, qui choque l'opposition, mais ce n'est pas là le seul point de friction. Catherine Dutu, les débats se sont polarisés en fin d'après-midi. Vous les avez suivis sur la question de la restauration de Notre-Dame.
Restaurer à l'identique Notre-Dame de Paris, c'est notamment le combat des députés Les Républicains, mais aussi de centristes tels que Thierry Benoît du groupe UDI Agir et Indépendants.
J'ai écouté le président de la République et j'ai été gêné lorsqu'il nous a dit, comme s'il s'adressait à un enfant à qui on aurait cassé le jouet, Notre-Dame de Paris, nous allons la reconstruire plus belle. Le président de la République a évoqué un geste contemporain. Moi, je souhaite rebâtir à l'identique avec les techniques du moment, mais je souhaite que le geste de ce nouveau millénaire soit le prolongement des gestes séculaires réalisés par les anciens bâtisseurs.
Monsieur le ministre, vous avez la parole. Quand on dit geste architectural contemporain, ça veut dire que c'est un geste architectural du moment. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose en rupture avec le style global du monument historique. Vous voyez, ça veut peut-être dire que c'est en décalage, mais ça ne veut pas forcément dire que ça le soit.
L'explication du ministre de la Culture, Franck Riester, raillée par Frédéric Dumas, ex-député LREM qui a rejoint en septembre dernier les rangs de l'UDI.
Vous savez très bien que quand on parle de geste contemporain, quand on parle d'architecture et d'esthétisme, on parle pas de, je dis, quelque chose au présent. On dit qu'on va apporter autre chose, évidemment, que ce qui est à l'identique. Donc, vous auriez pu quand même, en tant que ministre de la Culture, éviter de nous expliquer que contemporain veut dire agir aujourd'hui et faire un geste actuel. On s'en doute.
La députée des Hauts-de-Seine a plus largement dénoncé la loi d'exception pour la restauration de Notre-Dame, qui permet au gouvernement de légiférer par ordonnance et de déroger aux règles de préservation du patrimoine, de commande publique, d'urbanisme, d'environnement. Pour la députée UDI Frédéric Dumas, mais aussi pour l'opposition de droite comme de gauche, cela en dit long sur la conception de l'exécution de l'équilibre des pouvoirs.
Les grandes lignes de la météo de demain, temps orageux sur les trois quarts nord-est de la France, orage accompagné de pluie, ailleurs du soleil.